franceinter.fr.
J'arrive pas à dormir. J'ai comme l'impression d'avoir un poids en permanence dans le ventre. Comme une angoisse. Quelque chose qui va arriver, qui n'arrivera pas.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire ?
L'expression est entrée depuis longtemps dans l'usage courant, avoir le beau rôle. Le beau rôle, ce n'est pas forcément le premier, c'est aussi celui dans une forêt de personnages qui éclaire une scène apparemment anodine. Alors ce matin, deux beaux rôles dans ce studio. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est l'histoire d'un mec broyé par la société et qui va, après une série d'épreuves, trouver la force de se révolter. Bonjour François Cluzet.
Bonjour.
C'est vous le Duval de cette mécanique de l'ombre, un premier film signé Thomas Kruithof. Bienvenue à vous.
Bonjour.
Cluzet, comme une toile blanche, émutique au début et peu à peu, le facteur humain, je vous cite Thomas, dans une mécanique déshumanisée. Alors vous êtes le prof qu'on a tous rêvé d'avoir petit, le prof mignon, humain et solaire. Bonjour Alex Lutz.
Bonjour.
Dans Jamais contente d'Émilie Deleuze, vous êtes l'un des seuls à pouvoir communiquer avec cet ado rebelle Aurore, un second rôle certes, mais un prof dont on se souviendra. Les sorties de ce premier mercredi de janvier, entre des loups, une instite, un poète, 3000 nuits, un parc et des animaux nocturnes. Enfin, un mot de cette vague de disparition fin 2016. Michel Morgan, Carrie Fisher, Claude Jansac, Debbie Reynolds. Entre France et Amérique, entre drame, comédie et science-fiction, sacrée personnalité et grande présence sur l'écran et dans nos vies, mais aussi, Laurent, le départ d'un homme que l'on connaissait bien et qu'on aimait beaucoup. Il s'appelait Marc Nicolas.
Oui, nous l'avions reçu dans l'émission pour parler de sa passion qui était à la fois le cinéma et puis la Fémis, dont il s'occupait comme directeur général avec énormément de talent, énormément de passion, et il savait transmettre son amour du cinéma. Il nous manque déjà, Marc Nicolas.
Cette émission lui est dédié.
Votre dernier emploi était dans le cabinet Verdon-Pernot, c'est ça?
Oui.
Et qu'est-ce qu'on disait de Monsieur Duval dans cette société? Vous aviez une bonne réputation?
Comment ça?
Qu'est-ce que vos collègues et vos supérieurs pensaient de vous?
Non, je pense qu'ils me considéraient comme quelqu'un de sérieux et de ponctuel.
Pourquoi avez-vous quitté cette société?
Parce que j'ai eu des soucis de santé.
Et vous êtes guéri?
Oui.
Pourquoi n'avez-vous pas travaillé depuis? Vous avez préféré profiter du chômage?
Non, mais j'ai pas trouvé de travail. Puis bon, la crise.
De quel bord politique êtes-vous? Êtes-vous un homme de gauche ou un homme de droite?
Je dois avouer que j'ai jamais voté, je m'intéresse pas à la politique.
Vous ne vous sentez pas concerné par le destin de notre pays? Vous n'êtes pas patriote?
Si, bien sûr. J'ai fait mon service militaire.
Il est important pour moi de pouvoir compter sur des éléments qui ont un fort sentiment d'appartenance à la France. Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Notre rôle consiste à surveiller un certain nombre de personnes, des gens que nous devons protéger, ou des personnes qui peuvent être dangereuses pour la France. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. J'ai une mémoire visuelle, j'ai besoin que tout soit écrit noir sur blanc. Ces écoutes devront donc être retranscrites dans leur intégralité, le plus fidèlement possible. Il me faut quelqu'un de très rigoureux et qui tape vite.
Je suis pas sûr de correspondre au profil, hein. Vous voulez revoir mon CV?
Ah, je l'ai vu, on me l'a montré. La comptabilité est un exercice de rigueur et de précision, et c'est ce que je demande. Je ne demande pas une dactylographe. Je veux pouvoir compter sur un homme d'expérience qui ait ce que j'appelle une éthique de travail, car il y aura beaucoup à faire.
Duval, c'est vous, François Cluzet, un type sérieux et ponctuel qui burn out à un mauvais jour, se retrouve au chômage et va devoir accepter cette proposition insolite, retranscrire des écoutes téléphoniques sans ne rien savoir sur l'organisation qui vous a recruté. Voici l'idée de la mécanique de l'ombre. C'était quoi la finalité, Thomas Kruithof?
La finalité de...
Du film.
Du film.
Du sujet.
Le dessert.
La finalité, c'était de raconter, de faire un film d'espionnage en prenant un individu le plus en bas de l'échelle d'une organisation secrète dont ils ne connaissent rien.
Un lambda.
Et Duval, son nom exprime bien.
Voilà, et ouais. Plus on est bas dans une organisation secrète, dans une organisation d'espionnage, moins on en sait, puisqu'il cloisonne, on vous donne que ce que vous avez besoin de savoir pour bien faire votre travail. Et ça m'intéressait de raconter cette histoire de ce point de vue-là, de faire un film de suspense où le spectateur, comme le personnage joué par François, en connaîtrait autant, se poserait les mêmes questions et essaierait au fur et à mesure de découvrir un peu, de manière parcellaire et progressive, l'étendue du complot, de la mécanique dans laquelle le personnage est précipité.
Il y a un lien avec l'histoire politique de notre pays, vous faites référence à certaines affaires.
Oui, il y a
inconsciente.
Voilà, consciente ou inconsciente, il n'y a pas de reconstitution, mais les fils de l'intrigue vous rappellent plein d'affaires qu'on a vécues dans les 30 dernières années. Certaines libérations d'otages, notamment celle du Liban, ouais. Ou d'autres plus récentes, les carnets de Takedine, enfin il y a plein de... Puis généralement aussi ce soupçon qu'il y a parfois d'une instrumentalisation des services secrets à des fins politiques, et contrairement à la raison d'État. Puis peut-être aussi cette espèce de sentiment de surveillance généralisée qu'on a notamment depuis l'affaire Snowden, quoi. Enfin voilà, c'est aussi des choses qui sont un peu qui sont la toile de fond du film. Et
enfin, depuis que Snowden a révélé, parce qu'on est depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on avait effectivement déjà ces inquiétudes, mais voilà, ça, je pense que c'est beaucoup de choses qui sont dans notre conscience collective, qui sont un peu référencées comme ça dans le film. Et je crois que le spectateur s'en raconte aussi un peu sa propre histoire à partir de ces petits points qui rappellent certaines choses de son actualité, quoi.
Et cinématographiquement, on peut penser à des films comme Conversation secrète ou Les Trois jours du Condor. On est dans cette ligne-là d'une description d'une paranoïa.
C'est lourd comme référence, hein.
Ouais.
Bon, c'est écrasant.
j'aime beaucoup ces films, notamment Conversation secrète.
Vous les avez revus récemment?
Conversation secrète, je le regarde tous les ans. Et j'ai demandé aussi aux gens qui travaillaient sur le film, toute l'équipe artistique, de le regarder, d'être sûr qu'on n'aille pas dans la même direction. Enfin, voilà.
Pour ça que vous êtes au-delà de cette histoire d'espionnage, vous êtes parti de l'idée d'un type banal qui a besoin de survivre, de gagner du pognon et donc d'accepter n'importe quoi.
Tout à fait.
Dans un contexte qui est le nôtre en ce moment.
Exactement. Le type est blessé, amoché par la vie. Il vit seul, n'a aucune confiance en lui. Il fait des puzzles dans sa cuisine pour passer le temps. Et puis fait un burn-out parce qu'un patron décide de le surcharger de travail pour éviter de le virer. Finalement, il tombe dans l'alcool. Puis il arrive à se sevrer. Et puis, pour finir, il souffre de cette inutilité qui fait que vous saisissez la première opportunité qui se présente. Là, on lui propose un job à 1 500 € par semaine uniquement pour retranscrire sur une machine à écrire des écoutes téléphoniques. Il ne se pose aucune question, même si les clauses de confidentialité qu'on lui impose lui prouvent que c'est un peu secret ou dangereux. Mais toutefois, comprendre à la place d'un chômeur ce que c'est la chance qu'on vous propose un nouveau travail, ça lui suffit largement.
Un personnage pratiquement quasiment muet, mais votre filmographie vous a amené à ça. C'était peut-être pas au début, mais quel serait le rôle qui vous aurait amené à ce genre d'abnégation de parole?
J'ai toujours eu ce goût-là, parce que pour moi, le théâtre, c'est le verbe, et le cinéma, c'est l'image et le son, et non pas les dialogues. Donc j'ai toujours du mal avec des scripts qui sont très dialogués, parce que moi, ce que je cherche en tant qu'interprète, c'est la situation. Après, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le corps dans l'espace face à une situation et à des partenaires.
Au point où vous avez même fait couper des dialogues en disant, ça, on peut le comprendre à travers... mon visage ou mon corps.
Oui, je dirais que tous les acteurs font ça, c'est-à-dire si vous voulez, il y a deux scripts. Il y a un script qui est fait pour les financiers, un script qui est fait pour les coproductions.
Enfin, dans les vraies coulisses.
Et eux ne lisent que les dialogues, pratiquement. Donc, il faut leur raconter l'histoire dans les dialogues. Et puis après, il faudra un second script pour les interprètes, où là, on peut enlever les dialogues et garder les situations. Bon, mais on s'est tellement bien entendu au travail avec Thomas pendant 3 mois avant le tournage que je lui disais simplement je n'ai pas besoin de dire ce que je vais faire. Et on me disait que Morgan Freeman avait dit on ne dit jamais ce qu'on montre. Donc ça va un peu dans le même sens.
Mais vous rêveriez de tourner un film muet ?
Oui, ça me gênerait pas. J'ai l'impression que le corps parle. Par exemple, dans Intouchables, je me suis rendu compte, alors que moi, je suis très latin. Bon, alors, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans le film de lever la main, j'ai de couper, parce que je voulais approfondir
argumenter.
Mon propos, argumenter, voilà, je cherchais le mot. Et puis, je me suis rendu compte que sans le corps, les choses étaient faisables. Après, je suis plutôt un acteur physique, donc c'est plutôt le corps. Maintenant, on m'enlève la parole, ça me gêne pas tant que ça, d'autant que le personnage, c'est un type qui encaisse, qui ingurgite des désordres, qui est un bon soldat, qui fait ce qu'on lui demande, et qui est un encaisseur de premier ordre, puisque jusqu'au danger, il sert de punching ball.
Donc il est dans ce bureau incroyable, sans meubles, sans rien, ça part une table et une machine à écrire, parce qu'il faut surtout pas avoir recours au numérique, au téléphone portable, etc. Il a cette machine à écrire. Et débarque un collègue qui est le démon Simon Abkarian.
Je voudrais parler à monsieur Clément, mais il m'a pas laissé le numéro de téléphone pour le joindre.
C'est normal. Il peut pas être en relation directe avec tous ceux qui travaillent pour lui. Il y a une hiérarchie. Tu veux lui transmettre un message, tu dois passer par ton supérieur, en l'occurrence, moi.
Tu peux lui donner ça ?
Pas besoin d'être aussi formel, t'as un truc à lui dire, tu me le dis, je passe le message.
Tu peux lui donner cette lettre, s'il te plaît, c'est tout.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ? Allez mon gars, crache le morceau, sinon je vais l'ouvrir.
Je démissionne.
Clément... Il choisit bien ses hommes, tu sais. Il se renseigne, il monte ses petits dossiers sur chacun. Et toi, si t'as choisi, c'est que t'es fait pour ce boulot.
Non. Moi, je veux arrêter.
Pourquoi ?
Je veux arrêter, c'est tout. J'ai pas besoin de me justifier.
Non, 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 t'as besoin de le faire, au contraire. Sinon, ça va paraître bizarre. Bon, écoute. Aujourd'hui, on a beaucoup de travail. Je garde la lettre. On s'en reparle plus tard. Au calme.
François Cluzet, cet homme du Val, on pourrait peut-être lui imaginer une enfance difficile, un peu proche de la vôtre. Excusez-moi d'intervenir dans votre vie comme ça, mais vous avez dit, je n'ai jamais entendu petit, t'es drôle, t'es mignon, t'as du charme. S'il y avait de l'amour, il n'était jamais manifesté. Est-ce que vous avez... psychanalytique question, mais vous avez puisé dans ça pour imaginer ce mec-là ?
Bien sûr. Comme tous les interprètes, je suppose, Alex ou moi, ou tous les acteurs, c'est évidemment le fonds de commerce, l'arrière-boutique. Bon, mes parents étaient commerçants, donc ça tombe bien. Mais finalement, comment voulez-vous ressentir des émotions si vous n'en avez jamais vécu, quoi ? Donc, bien sûr, c'est notre fond. C'est en ce sens qu'un metteur en scène préférera Alex pour un film, et un autre me préférera moi. C'est de se retrouver en face d'un interprète qui a un fond, quoi, émotionnellement, ou un fond de fantaisie, par exemple. Des choses aussi assez rares. Finalement.
Pourquoi l'avoir choisi, lui, Thomas ? Parce qu'il est bankable.
beaucoup pour les choses que vous avez dit sur le jeu physique de François. Ouais. Et, on est dans un film où ce personnage s'est fixé certaines limites. Il est assez restreint. Il parle peu. Et je savais que François saurait traduire l'intérieur du personnage avec subtilité. Et voilà, sans se dévoiler et que le personnage partage. Et puis je pense que François apporte aussi une humanité au personnage qui est voilà, moi j'ai vu au tournage le personnage prendre vie, et ça dépasse un peu ce qu'on a écrit. C'est l'interprète qui lui donne vie, quoi.
Il y a pourtant dans ses yeux une révolte qui n'est, vous trouvez pas? C'est-à-dire que chez François Cluzet, on a toujours son œil qui frise, on se dit il peut péter un plomb, pardon de parler de vous devant vous, mais il peut péter un plomb comme ça.
Non, après c'est aussi la courbe du film de ce personnage qui à travers la il va aussi faire exploser ses propres limites, quoi, à travers les épreuves qui l'endurent. Son esprit se met à fonctionner, et il commence à voilà, et il y a de l'intelligence, une force intérieure qui remonte, qui ne connaissait plus, qui ne soupçonnait plus, ou qui n'avait plus probablement probablement utilisé depuis longtemps.
On a l'impression qu'il parle de vous dans la vraie vie, là. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, vous avez eu une première vie, vous étiez plutôt plus agité, et que vous vous servez maintenant de cette agitation pour la contenir.
Merci, docteur. Mais c'est vrai, vous avez entièrement raison. Encore une fois, c'est pas pour jouer les modestes, mais c'est le principe de l'interprète, d'être assez plein. Il nous faudrait tout, quoi. L'émotion, la fantaisie, la profondeur, enfin, tout, quoi. Et on n'a jamais tout, donc bon, ça dépend des rôles qu'on joue. J'ai l'impression, bien évidemment, qu'un interprète, c'est aussi un parcours de vie, voilà, quoi. Ce qui est drôle, c'est que, évidemment, le rôle me ressemble un peu. Voilà, j'ai encaissé pas mal, et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer le théâtre et les textes, et c'est ça qui m'a sauvé. Et puis aussi des artistes que j'ai admirés, qui m'ont beaucoup influencé, donc... Voilà, je pense à les acteurs de théâtre.
Est-ce que vous en faites un ancien alcoolique, quand même, de cet homme-là?
Ouais. Bah, c'est pas tant l'alcoolisme, enfin, c'est qui m'intéressait.
Une addiction.
Oui, c'est une forme d'addiction, mais c'est plutôt l'état qui arrive après. Il avait un problème pour se contrôler, et après, il est obsédé par le fait de se contrôler et de se fixer certaines limites. Et le fait que ce personnage, voilà, il a une vie très réglée, il a juste besoin d'un travail pour aller mieux, et il va accepter ses règles. Il est très instrumentalisable, mais ce qui m'intéressait, c'était cette mécanique d'aller tous les jours aux alcooliques anonymes et tous les jours se dire, il faut que je fasse attention, je peux être faible, il faut pas que je reprenne. Voilà, c'est aussi un peu toutes ces limites que lui s'est fixé au début dans sa vie, quoi.
François Cluzet, est-ce que vous avez déjà accepté un boulot comme ce type Duval, parce que comme ça, pour des raisons folles, parce que vous en aviez besoin, parce que vous n'avez pas d'argent, est-ce qu'il y a des choses que vous avez acceptées contre vous-même?
Non, mais j'ai eu de la chance, j'ai tout de suite travaillé comme acteur, très rapidement au théâtre amateur, j'ai fait beaucoup de figurations, j'ai fait beaucoup de petits rôles, beaucoup de choses comme ça. J'avais la chance aussi d'avoir un physique médian, donc je jouais à la télévision 3 jours le fils d'un bourgeois, 2 mois après 3 jours un ouvrier, tout ça, je travaillais presque plus que mes potes grâce à ce physique comme ça. Chez moi, l'habit fait le moine, chez beaucoup d'acteurs comme ça. Autrement, non, j'ai pas eu le sentiment d'accepter, sauf que dans ce métier, vous connaissez la phrase de Jouvet, tu choisiras quand t'auras le choix. Bon, bah, quand vous débutez, vous n'avez pas le choix, donc c'est comme ça que j'ai découvert certaines aventures qui n'étaient peut-être pas de très grande qualité, mais importe peu, moi ce qui m'obsédait, c'était de jouer. Donc j'ai commencé au théâtre de boulevard, et j'étais très content, et puis j'ai fait le grand écart, après je suis parti avec Alain Françon, André Engel, vous voyez, dans des tests classiques, et j'ai toujours monté demi-marche par demi-marche, je dis théâtre amateur, figuration, silhouette, 2 jours, 3 jours, puis... mais j'ai sans cesse travaillé.
Et vous, Alex Lutz, est-ce que vous avez déjà accepté des choses pour manger?
Non, un petit peu. Non, un petit peu. J'ai commencé à 17 ans et pareil, j'avais une obsession de... Non, je voulais que ce métier soit un métier. Donc, j'ai jamais accepté quelque chose qui n'était pas payé, même en sandwich triangle. Mais il fallait que ça soit symboliquement qu'il y ait un engagement de part et d'autre. Mais je suis ravi de ne pas avoir fait d'école parce que du coup... Je me disais, bon, bah là, il va falloir plutôt éclairer la salle. Ben, je vais apprendre à éclairer une salle. Donc, du coup, j'ai fait mon métier en faisant plein de métiers. Je trouve que c'est l'avantage de notre métier, c'est qu'il est, c'est un village, quoi. Il y a l'électricien, le boulanger, il y a plein de métiers dans notre métier. Donc ça, moi, je peux que encourager. Enfin, je n'ai pas l'immense carrière de François, mais je veux dire...
Bah, tu n'as pas mon âge, non. Attends, ça va venir.
Mais je veux dire, pour quand les jeunes commencent, je trouve que c'est toujours un peu dommage qu'ils se disent « Mon truc, ça ne sera que ça. S'ils aiment plusieurs choses dans ce métier, il ne faut pas se gêner.
Voilà. » Je le disais en ouvrant cette heure, vous êtes, Alex Lutz, le prof qu'on a tous rêvé d'avoir dans « Jamais contente » d'Émilie Deleuze, l'adaptation du roman « Le journal d'Aurore » de Marie Desplechin, Aurore, 13 ans, est atrocement malheureuse, c'est elle qui le dit, le regard et le jugement tragicomique d'une ado sur le monde qui l'entoure et sur la place qu'elle y occupe. Extrait de votre entrée en scène dans le film, parce que ouais, un prof entre en scène quand il se présente à ses élèves.
Eh bien, bonjour.
Bonjour.
Je me présente, je m'appelle Sébastien Couette. Voilà, donc ça fait rire au départ, moi ça me faisait rire aussi. 5 minutes hein, après, ça m'a passé. Je vais vous vouvoyer. Alors pourquoi je vais vous vouvoyer? Parce que j'ai envie de vous respecter, parce que j'ai envie de vous traiter pas comme des petits bébés. Vous pouvez vous redresser, mademoiselle, s'il vous plaît? J'aimerais vous expliquer aussi comment je vais vous évaluer. Chez moi, vous avez tous 10 au départ. Oh là là, incroyable, merci de ce cadeau. Bref, pour démarrer ce nouveau système d'évaluation, on va commencer par la lecture d'un livre.
Ce couette est bourré d'ambition.
On va commencer avec l'inénarrable.
Et aucune chance qu'il tombe enceinte.
Qu'est-ce que c'est inénarrable? D'après vous, c'est quoi inénarrable?
Un truc qu'on peut pas ninarrer.
Qui ne peut pas ninarrer. Ben, c'est vrai. L'inénarrable qui ne peut pas ninarrer. Ça n'existe pas. Le verbe du premier groupe, inénarrer. Qui ne se narre pas, hein, qui ne se raconte pas. Inénarrable, l'ineffable. Pas mieux. L'incontournable, princesse de Clèves.
Alex Lutz, cette scène, je veux dire, un prof qui se présente à ses élèves, on l'a vu des milliers de fois au cinéma. Est-ce qu'on sent cette pression quand on joue ça en disant « moi, je vais la jouer autrement ».
Ah non. Tiens, c'est marrant, cette ouais. question. Non. J'ai pas pensé à ça. Je voulais surtout être le plus sincère dans un rapport dans ce que j'aime bien d'un professeur, parce que le professeur est important pour Aurore. Il est un de ceux qui arrive à peu près à avoir un lien sans qu'il soit très très agacé tout de suite par Aurore. Et je voulais trouver cet équilibre entre pas l'éducation positive super sympa et ouais. en même temps une école au mérite 3e République. Donc fallait trouver quelque chose comme ça. Je me suis amusé à trouver cet équilibre là. Je me disais qu'est-ce que je peux dénicher là-dedans.
Vous avez convoqué les souvenirs personnels?
Non, juste le 10. Là, je trouvais que j'aurais rêvé de ça.
Ah oui, vous avez rêvé.
C'est quand même marrant que ça n'avait pas été inventé, parce que démarrer. Ouais. Enfin, c'est quand même une histoire de permis à points tous les ans, donc je trouve que c'est horrible. C'est-à-dire, ouais. tous les ans, tu passes une année et tu recommences quand même à zéro. Alors que si t'as 10, bon ben voilà, t'as 10, t'as tes points. Et puis soit tu augmentes un petit peu, soit tu perds un petit peu. Donc ça, c'était juste pour lui donner un petit, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il est particulier, juste pour cette petite accroche-là. Et après, moi, Pénac m'a beaucoup fait du bien à l'âme, mais tardivement, bien plus tard. Mais sur son rapport à la lecture, ça, la lecture cadeau. Où il dit lisez à vos élèves, leur demandez pas un truc en échange, avec la seule exigence qu'ils aient lu. Ça me touchait, ça m'a un peu inspiré pour ce Sébastien Couette.
À l'âge d'Aurore, vous étiez dyslexique?
Oui, je le suis toujours.
on l'est à vie.
Vous l'êtes. Je crois que ça se traite.
Ça se corrige un peu, ça se
touille voilà, et puis ça revient.
Oui.
Ce qui est formidable avec vous, c'est que d'abord, il y avait un double défi, exister dans un rôle secondaire comme ça. Et la deuxième chose, c'est d'oublier des personnages que vous croquez ailleurs, notamment à la télé,
oui.
pour ne voir que... Vous y pensez à ça aussi ou pas?
Je crois que je touche du bois parce que ça se passe bien.
Oui.
Ça se passe bien avec ça. Je crois que plus on est parano de ça, plus ça se voit, non? Je crois.
Oui.
Vous n'y pensez pas du tout?
Non. Après, je suis vigilant avec, on va les dire, hein, Catherine et Yann, je vais pas les faire une pub pour le jambon et après un colloque en entreprise. Mais, mais après, je calcule ma chance aussi. Il y a des gens qui n'ont pas le 1/8 de ça, d'un demi-personnage qui marche à la télé. Donc il y a ça, il y a un spectacle qui marche très bien, il y a des films qui se font quand même. On va pas commencer à dire oh là là. Et puis après, il faut faire les rôles,
Vous le dites comme dans le film, oh là là, c'est drôle. Vous le dites comme dans l'extrait qu'on vient de passer.
Ah bah voilà.
Donc c'est un peu de vous. Émilie Deleuze dit de vous, sa manière de jouer me fait penser aux Anglais. Il a cette même fluidité, l'air de rien, une forme de puissance tranquille. Moi je résumerais ça dans un adjectif que j'aime bien, c'est effortless, comme disent les Anglais. Il a pas l'air de faire d'efforts. En revanche, il y a un travail énorme derrière, non? Vous êtes un gros, gros bosseur.
Ah ça oui, par contre. Oui. En revanche, oui, parce que c'est parce que j'aimais bien quand il disait un physique médian tout à l'heure, François Cluzet.
Oui.
Je suis ravi de ça, en fait, parce que ça m'a donné le goût du travail aussi. Vous savez, quand on ressemblait à un gendre un peu sympa, faut quand même se mettre au travail. On se rend compte qu'il faut vachement se mettre au travail. Donc c'est assez motivant. Mais du coup, aborder un rôle, ça devient tout de suite assez passionnant, assez artisan. Je suis très paysan, moi, avec ce métier. Je trouve que c'est...
C'est-à-dire, vous l'avez travaillé comment, ce rôle, par exemple, de
prof? Je sais pas, je réfléchissais à comment il s'adresse à eux, un peu à son look, évidemment, à comment il bouge. Mais François a raison, c'est vrai. Je vais que paraphraser François, je trouve. Il a tout dit. On peut arrêter cette émission.
Non, c'est intéressant. Parce que...
C'est un corps dans un espace, c'est une situation, je suis d'accord. C'est-à-dire que... Voilà.
Mais je trouve que le travail, si tu veux, qu'on peut faire en amont du tournage est excessivement bénéfique. C'est-à-dire, c'est un peu comme les répétitions au théâtre. Oui. C'est beaucoup plus créative que les représentations. Oui. Les représentations, tu montres un travail. Mais quand tu le formes, ce travail, quand tu le fais entre un dramaturge, un metteur en scène, un scénario pour parler de cinéma, et que pendant 3 mois ou 2 mois, tu travailles avec le metteur en scène, tu travailles tout seul chez toi, que tu connais le film par cœur, que tu réinventes les dialogues, quitte après à reprendre les originaux.
Ça arrive souvent, par exemple. Moi, j'ai souvent besoin de le réécrire, j'y reviens. Mais parce que ça me crée des accidents de pensée et d'avoir le corps avant la pensée, le corps avant le texte.
Ça permet de s'approprier ce qu'on dit.
Et puis, il y a une cuisine qu'on se fait. Après, c'est comme, je trouve que ça ressemble plus, en tout cas avec l'image, à quelque chose de l'écriture. C'est un peu seul avec soi, quoi. Il y a sa petite trousse, il y a son petit texte, on a besoin de calme. Et puis alors, ça peut être une musique aussi. Moi, par exemple, la musique, la playlist que je me passe peut m'amener plein de choses dans un personnage.
Et vous, pour ça que le dire ?
Oui, musique à part, comme je vous le disais, c'est vraiment le moment le plus passionnant. C'est finalement, je reçois le script de Thomas Kruithof, La mécanique de l'ombre, je lis, l'histoire m'interpelle, je relis une deuxième fois, puis une troisième fois, je vérifie vraiment que l'histoire me plaît, je rencontre le metteur en scène, je lui demande son point de vue. Quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans cette histoire? Et qu'est-ce que t'attends de moi? Là, en l'occurrence, Thomas était tellement plein de son sujet que j'avais des réponses à n'en plus finir. Je prenais des notes. Je suis sorti de certains rendez-vous. J'allais aux toilettes pour prendre des notes, des trucs. Parce que je reviens chez moi, je retravaille avec ce qu'il a dit, puis je le revois une seconde fois, une troisième fois. Puis on se met au travail. Je lui demande quels sont mes partenaires. Et ça finit par me motiver. L'ensemble me motive parce que j'aime l'histoire, j'aime le point de vue du metteur en scène, j'aime mes partenaires. On y va, quoi. Mais tout ce travail pendant 2 mois avant le tournage me permet surtout de ne rien faire d'autre que de vivre le personnage au tournage. Un interprète, pour moi, c'est juste quelqu'un qui amène la vie. Comme je le dis, c'est modeste, c'est essentiel, mais c'est modeste. Et d'où l'intérêt des jeux sobres, parce que tout passe. La caméra, c'est un objet. Donc, il y a une véritable objectivité. Et la sincérité, elle passe formidablement face à l'objet.
Alex Lutz est très sincère aussi dans ce film « Jamais contente ». On va écouter un deuxième extrait entre vous et cette petite aurore dans la cour de l'école.
Bien, très bonne vacances, bonne fête. On révise l'injonctif et les 5 points pour développer un point de vue. Au revoir. Aurore, venez voir par là, s'il vous plaît. J'ai commencé à corriger les copies d'analyse de texte. Vous vous rendez bien compte que ce que vous m'avez rendu, c'est même pas pensable, en fait. Quand vous m'écrivez, je me demande ce qui vous pousse à donner des textes répulsifs qui sont très décourageants sous le rapport de l'avenir. Sous le rapport de l'avenir, on comprend pas. Peut-être voulez-vous nous avertir de ne pas accepter des verres offerts par des inconnus dans des boîtes de nuit.
C'est mort de chez mort, quoi.
C'est quoi?
C'est mort de chez mort.
Alors, c'est mort de chez mort, j'en sais rien, c'est pas une phrase. Rien n'est cohérent, c'est des avis. C'est même pas des avis, c'est des bouts de colère balancés les uns après les autres. Et moi, je dois noter ça?
Comme vous voulez, c'est vous le prof, de toute façon.
Quoi?
C'est vous le prof.
Mais de toute façon, c'est pas une note qui va changer grand-chose, donc...
Bah si.
Bon, bah alors, je la note pas. D'accord, je la note pas. Je vous note plus sur ces trucs-là. En revanche, ce que je vais vous demander de faire, c'est un recueil de poèmes que vous allez écrire et inventer vous-même pour la fin de l'année. Et je vous évalue là-dessus. Parce que de l'imagination, ça, c'est sûr, vous en avez. Joyeux Noël.
Toi-même.
Alex Lutz, pardon pour ce parallèle, mais... Vous dessinez beaucoup, vous avez même failli en faire votre métier. Est-ce que ça aide, parce que vous avez dû croquer des personnages, est-ce que ça aide pour croquer des personnages que vous interprétez?
En tout cas, j'ai abordé le théâtre comme ça.
Ah oui.
Parce que je voulais dessiner et il y avait eu une espèce d'erreur d'orientation où on m'avait dit « Tiens, fais du théâtre, comme ça tu pourras faire un bac dessin ». Enfin, ça c'était vraiment pas très... Mais on m'avait envoyé vers ça. Aller vers une filière artistique, il n'y avait plus de place dans les trucs de dessin, je sais pas quoi. Et en fait, quand j'ai vu le théâtre, il y avait du relief de ce que je mettais sur le... Il y avait du mouvement et du relief. Donc ça doit être lié. Après, je trouve... on a l'air d'évoquer plein de règles, et puis il n'y a pas de règles non plus, parce que vous avez la vie, la rue, c'est plein de gens, des fois très hauts en couleur, des fois très petits, des fois très... C'est ça que je trouve... C'est infini comme... comme recherche.
Et c'est déjà fini avec vous. Non, vous restez avec nous, bien sûr. La mécanique de l'ombre avec François Cluzet et Thomas Kritoff et Jamais Contente. Moi, je voulais terminer avec votre prestation dans OSS 117 parce que c'était un de vos premiers rôles au cinéma. Et après le disque, on se retrouve juste après où vous jouez un fils de nazi.
Comme souvent.
Nous sommes journalistes et on cherche ton père, Heinrich. Où est-il ?
On n'a pas dit qu'on faisait comme ça, hein ?
Non, mais on fait comme ça. Quand tu as le choix, ou tu me dis où est ton père, ou je te mets une balle entre les deux yeux.
Et je ne sais pas où est mon père !
Ce n'est pas ce que je veux entendre.
Moi non plus.
Mais je vais vous aider, je vous promets. Je ne sais pas où est mon père, mais je sais où est son ancien associé. C'est un Brésilien, je peux vous emmener.
Je suis prêt à vous aider à l'arrêter, qui que vous soyez.
Je hais mon père.
C'est un nazi. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils.
Non mais oh ! Comment tu parles de ton père ? T'as pas honte ? Qui c'est qui t'a nourri ? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais ! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que sa fille est doux. Ça la mère de la batte elle mouffetait pas. Et les gamins pareil !
Mais enfin, son père était nazi.
Peut-être. Mais c'était quand même son père.
Laurent, qu'est-ce qui a marché ce premier mercredi de janvier ?
Sur la première marche du podium Nocturnal Animals de Tom Ford, suivi de Neruda, puis de Faut pas lui dire en troisième position.
Eh bien, on va commencer par ce Nocturnal Animals de Tom Ford, deuxième film, donc The Couturier. Après une Single Man, pardon, très étonnant, premier film avec Colin Firth et Julianne Moore. Celui-là est adapté d'un livre, Tony and Susan d'Austin White. Il parle de Suzanne Morrow, une galériste d'art de Los Angeles qui s'ennuie dans l'opulence de son existence, délaissée par son mari, alors que ce dernier s'absente. Encore une fois, en voyage d'affaires, Suzanne reçoit un colis inattendu, un manuscrit signé de son ex-mari Edward Sheffield, dont elle est sans nouvelles depuis des années. Une note l'accompagne, enjoignant la jeune femme à le lire puis à le contacter lors de son passage en ville. Seule dans sa maison, elle entame la lecture de l'œuvre qui lui est dédicacée. Trois récits parallèles, sa vie actuelle, la fiction du roman et son histoire avec son ex-mari, le tout, il faut le reconnaître, assez habilement croisé. Autant le vague à l'âme et le narcissisme marchaient extrêmement bien dans le Single Man, autant là, Laurent, il s'étend, il mange, il avale l'attention qu'aurait requis un tel récit.
Oui, oui, je partage ses réserves parce que c'est dommage. Évidemment élégant, évidemment plein de références littéraires, plein de, mais ça finit par être raide, empesé, composé. Reste Amy Adams,
qui
pourrait réciter le bottin du début jusqu'à la fin et de la fin jusqu'au début, je resterai.
Oui, en plus, elle avait beaucoup de gros plans
sur elle.
C'est
pas évident le bottin.
Pardon.
C'est pas évident le bottin.
Ouais, c'est pour ça, c'est un challenge.
Le parc de Damien Manivelle. On va le résumer, tiens, ce film avec sa note d'intention à ce garçon. Il a dit « Je sais que le récit se déroulera sur une journée, une nuit, dans un parc, que le personnage principal sera une adolescente, qu'elle vivra une histoire avec un jeune homme et croisera la route d'un gardien du parc le premier jour. Nous commençons donc par filmer le rendez-vous entre les adolescents, les péripéties, la tonalité, l'image de fin. Tout cela s'écrit pendant le tournage. » Il a de la chance, hein.
Formidable second film de Damien Manivelle après Un jeune poète qui se passait à 7. Là, le film se déroule intégralement dans un parc qu'on imagine aisément parisien. Sur 1h12, c'est exactement ce que vous venez de décrire en termes juste de ce qui se passe, effectivement. Donc, il y a un premier film qui est un film de jour et un second film qui est un film de nuit. Le premier film de jour, c'est cette rencontre adolescente formidable qu'on dirait un peu écrite par un Marivaux plus grave que d'habitude, beaucoup influencé par l'horreur de Murnau sur effectivement la beauté d'une rencontre fortuite, des jeux de l'amour et du hasard. Et puis vient effectivement la nuit, et peut-être après tout qu'on serait tenté là d'y voir un peu plus de Charlton et de La Nuit du Chasseur. Oui, je sais, ça fait beaucoup pour un seul film. Ouais. L'aurore de Murnau plus La Nuit du Chasseur. Oui, mais voilà ce que moi j'ai ressenti en découvrant à Cannes, au sein de la sélection de l'Acide, ce film qui dit beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps, avec une économie de moyens incroyable. Damien Manivelle, il faudra compter avec lui décidément au sein du cinéma français.
Le parc, ça s'appelle. La Vallée des Loups de Jean-Michel Bertrand. C'est l'histoire d'une obsession, rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel et les filmer, bien sûr. Jean-Michel Bertrand a préparé cette aventure pendant 3 ans. Entre repérage et pose de caméra à des endroits stratégiques, le film est l'histoire de cette quête des jours, des semaines, des mois postés en observation pour se fondre dans le paysage, leur territoire, le borner de ce territoire, de son urine, pour que les loups s'habituent à sa présence. Une quête racontée en voix off et sa voix chaleureuse, imagée, poétique, on attend avec lui, ébloui par la beauté de ce paysage, de cette faune, et notamment cette chouette au regard si intrigant. On patiente et on désespère jusqu'à cette apparition nocturne tout à fait extraordinaire. Des loups, enfin, en suivront d'autres. Diurne, cela est comme une récompense. C'est une aventure pure, primitive, obsessionnelle, radicale, gratuite, éloignée du tumulte du monde, Laurent.
Oui, ça nous rappelle que ce qui est important, c'est la quête, c'est la recherche, c'est pas forcément le but. Voilà, et c'est magnifique de ce point de vue-là.
Et là, vous verrez ce que c'est que de marcher à pas de loup, c'est fascinant. On a l'impression qu'il marche sur du verre cassé. Et c'est pas ce qu'il y a de plus beau, les loups, hein. C'est surtout,
c'est le reste. C'est le reste,
c'est toute
bien
la
sûr.
Quête.
Oui.
Mountain de Yael Kayam, une jeune femme juive orthodoxe qui vit près d'un cimetière juif situé sur le mont des Oliviers à Jérusalem, découvre, parce qu'elle a un mari très 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 pieux, a une vision sexuelle dans ce cimetière une nuit, et sa vie va changer.
Oui, ben c'est ce lieu qui est extraordinaire dans Montaigne. C'est le premier personnage du film, c'est ce cimetière juif au Mont des Oliviers. Donc c'est un lieu absolument chargé d'histoire, de religion, d'orthodoxie aussi, mais évidemment qui est inscrit dans l'histoire israélo-palestinienne de la ville de Jérusalem. Donc c'est vraiment un lieu incroyable. Il se passe des choses dans ce cimetière la nuit qui sont pas de l'ordre de l'orthodoxie religieuse, puisqu'il y a des prostituées par exemple qui s'y promènent. Et la métaphore du film, elle est claire sur la situation tout en complexité d'Israël, c'est-à-dire cette façon qu'a le jeune cinéma israélien, parce que c'est loin d'être le premier film qu'on voit dans cette travée-là, si je puis dire, de vraiment de nous parler de la réalité de l'orthodoxie, de nous parler du poids de la religion, de cette société qui s'interroge en permanence sur son tropisme religieux. Et là, dans ce lieu-là, tellement chargé d'histoire, c'est absolument saisissant et ça en fait un film magnifique qui s'appelle, je le rappelle, Mountain.
Primaire d'Hélène Angèle avec Sarah Forestier qui incarne Florence, une professeure des écoles dévouée à ses élèves. jusqu'à ce qu'elle rencontre un petit Sacha, un enfant en difficulté. Elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Même si c'est vrai, on connaît cette chanson, on a toujours plaisir à parler, à revoir ces scènes de petite classe, les enfants, leur naturel, et surtout l'implication, on peut parler de sacerdoce, de cet instit entièrement vraiment dévoué à cette classe. De ce point de vue, Laurence Sarah Forestier, elle est quand même très étonnante, quoi. C'est une actrice instinctive qui plonge totalement dans ce rôle. Ce qui gâche le tableau, c'est l'histoire parallèle, finalement, qui vient encombrer le reste, qui aurait totalement suffi. Histoire d'amour, on s'en fiche un peu, quoi.
C'est de l'anecdotique pure, ouais. On s'en fiche. Sarah Forestier brille comme un diamant. Pour le reste, il faut aussi que le cinéma français paye manifestement sa dette régulièrement à l'argent de poche de François Truffaut. C'est un décal quand même assez saisissant, y compris sur le discours final de l'Instit, qui nous renvoie au discours final de Jean-François Stévenin dans le dit film.
Voilà. Ouais, c'est lourd comme héritage quand même.
Ah oui, c'est lourd, mais bon, bah, il faut peut-être s'en détacher. Alors voilà, mais trouver les moyens de le faire.
3000 nuits de Mae Masri, c'est une cinéaste palestinienne qui filme une prison de femmes en Israël, mais de détenues palestiniennes, Laurent. Un film militant, écrit Jean-Baptiste Morin dans Les Arocs, qui prend ouvertement parti pour la cause palestinienne, sans contre-champ israélien. Vous êtes d'accord?
Mais je suis entièrement d'accord. C'est un film palestinien et qatari, qui est un film historique. C'est-à-dire, ça se passe avant le massacre de Sabra et Shatila. Donc, c'est historiquement daté. On n'est pas dans l'Israël actuel. L'histoire est passée par là. L'histoire tragique. Alors oui, je retiens la notion de militantisme. Et ça en fait donc à la fois évidemment la force. On est tous derrière cette espèce de sainte et martyre parce que cette militante palestinienne est accusée à tort d'avoir commis un attentat. Donc on est tous évidemment derrière elle. Seulement effectivement le point de vue adverse en quelque sorte manque cruellement et le film finit par pêcher là où il milite, c'est-à-dire justement dans ces terres de militantisme un peu trop exacerbées.
3000 nuits, c'est le temps qu'elle passe en prison.
C'est cela.
D'accord.
Il peut rien vous cacher.
Neruda de Pablo Larraine. Mais quelle activité ce Pablo Larraine entre Jackie et celui-là. Cinéaste chilien, donc, 1948, la guerre froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla, dictateur, demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Oscar P. Luchono le soin de procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son épouse n'arrivent pas à quitter le pays. Ils sont alors dans l'obligation de se cacher. Il joue avec l'inspecteur et laisse volontiers des indices pour être retrouvé. Ce n'est pas un biopic ordinaire, et ça c'est très très bien, mais c'est même un scénario très malin dans lequel effectivement la reine imagine cette fuite comme une enquête poétique et littéraire, Neruda laissant des indices à cet inspecteur un peu crétin, pour rendre cette traque encore plus dangereuse. Malheureusement, le film n'est pas à la hauteur de son scénario, et pas beaucoup d'imagination dans cette mise en scène. Ça aurait été un superbe livre, en fait.
Peut-être. En tous les cas, c'est un peu comme si on faisait un biopic de Louis Aragon en le résumant à une sorte de vieux homosexuel stalinien, ce qui n'était pas seulement. Alors écoutez, moi, comme j'aime beaucoup Neruda, le poète, mais pas beaucoup le film, je vais vous lire juste un petit peu de Neruda, ça nous fera du bien. Je vais donc te parler de ces douleurs que j'aimerais tant écarter. Je vais t'obliger à vivre une fois encore dans leur brûlure. Non pour nous arrêter comme dans une gare au moment de partir, non pour nous cogner front contre terre, non pour nous remplir le cœur d'eau salée, mais pour marcher en connaissant, pour toucher la droiture avec des décisions infiniment lourdes de sens, pour que la rigueur soit condition de la joie, pour que nous soyons invincibles.
Pas mal. Et on va terminer avec quelques minutes après minuit. Vous pouvez emmener vos enfants voir ce film réalisé par le catalan Juan Antonio Bayona. C'est un beau film. C'est un jeune garçon, Connor, qui a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l'intimidation de ses camarades, à la fermeté de sa grand-mère. Et chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s'échappe dans un monde imaginaire, peuplé de créatures extraordinaires. Bon, c'est vrai, dans le fond, nous sommes un peu à Pathosland, hein, avec toutes ces épreuves pour ce petit garçon, et notamment son rapport à la mort et la séparation qu'il devra affronter. Heureusement, il y a ces magnifiques et spectaculaires apparitions nocturnes, un monde dans un autre où se mélangent poésie et noirceur, parce que oui, la maladie d'une mère, c'est une chose terrifiante et tous ses effets sont à la mesure de sa peine. Et en plus, ce film est coproduit par Guillermo del Toro, qui connaît un peu la musique.
Eh bien, je l'ai préféré filmé par lui.
D'accord. On va terminer avec des cadeaux pour nos invités.
Oui, Bien sûr.
Trois livres.
Oui, trois livres. Le premier pour François Cluzet, Un homme cruel, un roman vrai de Gilles Jacob sur un acteur japonais que nous connaissons tous parce que nous l'avons vu au moins dans Le pont de la rivière Kouai. Mais c'est un destin de vie incroyable que Gilles Jacob fait ressurgir. Vous verrez, c'est vraiment un très très beau récit. C'est tout à fait étonnant. Voilà.
Merci mille fois.
Pour vous, Thomas Krutoff, qui est forcément un cinéphile puisque vous êtes un cinéaste, Drôle de salle, 5 cinémas de quartier et toute une histoire. Ça se passe à Paris, notamment au Majestic Passy. Salle mythique, c'est aux éditions Locaux. Je répète le titre, Drôle de salle. C'est merveilleusement bien écrit et très très bien illustré, avec notamment des vieilles photos, de vieilles affiches qu'on adore, comme celle qui me tombe sous les yeux, Le jour se lève, avec Arletty et Jules. Voilà.
Et pas de cadeau pour Alex.
Mais bien sûr, c'est cadeau, mais enfin pourquoi? Mais non, je sais que vous êtes un joueur, alors un film se cache dans cette image. Voilà, c'est pour vous, c'est pour jouer, vous verrez. C'est extrêmement graphique et il faut deviner le sous une forme de rébus visuel le titre d'un film. Voilà, c'est pour vous. C'est aux éditions Tana.
Vos deux films seront face à face la semaine prochaine.
Thomas... Mais ils s'entendront bien.
Mais oui, bien sûr. Thomas Krutoff, La mécanique de l'ombre avec François Cluzet. Merci beaucoup d'être venus tous les deux.
Merci.
Et ce
merci.
Second rôle solaire, Alex Lutz, dans Jamais contente, d'Émilie Deleuze. On retrouve toutes les infos sur notre site.
franceinter.fr, bien entendu, toutes les références de l'émission. Et vous nous laissez vos courriers.
Et Thomas, François et Alex, s'il vous plaît, lâchez-vous pour ce générique. Je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Alex Lutz, j'y étais.
Et moi, Francis Cluzon, j'y étais aussi.
Et moi aussi, Thomas Krutoff, j'y étais.
Et c'était super!
Et c'était bien. C'était chouette. On passe un bon moment.